Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. La Panthère des Neiges, extrait numéro 7. À 4 heures du matin, le réveil. Le thermomètre affichait moins 35 degrés. Il y avait quelque chose de stupide à s'extirper du sac de couchage. Pour ne pas souffrir du froid dans pareilles conditions, il fallait s'organiser. Chaque geste devait répondre à un solfège. Trouver son gant, lacer ses chaussures à l'intérieur de son duvet, ranger chaque objet dans le bon ordre, enlever sa moufle pour boucler une sangle, la remettre prestement. Qu'on tarde un peu, le froid saisissait un membre et ne le lâchait que pour en mordre un autre. Le froid rôdait à l'intérieur de l'organisme. Au fil des années, le corps ne s'aguerrit pas, mais en s'exerçant à des gestes précis, on réduit les souffrances. Le Tao disait que le mouvement triomphe du froid. C'était aussi les termes du premier principe de la thermodynamique. Ce matin-là, conformément aux indications de la pensée chinoise et de la physique thermique, nous nous jetâmes de bonne grâce dans l'effort. Nous montâmes jusqu'à 5200 mètres par de larges crêtes. Nous étions lents car mal acclimatés. Le petit sommet était une plateforme de pierre plate, éclatée par le gel. Le jour se leva et, là-haut, la vue s'ouvrit enfin sur le haut plateau du Changtang. C'était une table de 1000 kilomètres, vibrant de poussière, veinée de marais blancs. La brume faisait horizon. Dans ce vide, se tenait de la vie dissimulée. J'imaginais de longues traversées d'est en ouest. Il y a des lieux dont le nom sert à rêver, et le Changtang remplissait pour moi cette fonction. Parfois, les noms magiques deviennent des titres de tableaux ou de poèmes. Victor Segalen rêva du Tibet qu'il n'atteignit jamais et orthographiait ainsi avec un H. Il y voyait un gouffre pour la purification de l'esprit. Puis Tibet, avec un H, devint le titre de l'un de ses recueils, Déclaration d'amour aux patries inaccessibles. Il exprimait le fernweh germanique, nostalgie des confins où l'on n'ira jamais. Le Changtang à mes pieds proposait son néant pour de prochaines aventures. C'était un royaume à prendre, une terre à parcourir à cheval, en colonne portant fanion. Un jour, nous irions tout droit sur sa face desséchée. J'étais heureux d'avoir vu le plateau de si haut. Je prenais un ferme rendez-vous avec ce que je ne connaîtrais jamais. Nous restâmes 2 heures au sommet et ne vîmes aucune bête, pas même un rapace. Une saignée de terrain indiquait que les Chinois avaient crevé la zone avec des bulldozers. Des prospecteurs de minerais? La région a été vidée, dit Munier, comme chez moi dans les Vosges. Très jeune, dans les années 60, mon père a alerté ses concitoyens. Il pressentait les désastres. Rachel Carson avait écrit « Printemps silencieux » pour dénoncer les pesticides. Ils étaient peu nombreux à l'époque à voir poindre la menace. René Dumont, Conrad Lorenz, Robert Hénard, ils prêchaient dans le vide. Mon père se morfondait On le tenait pour un gauchiste, il en fit une maladie, cancer de la tristesse. Il a souffert de la terre dans sa chair, dis-je. Si tu veux, dit Munier. Nous revînmes en une journée vers le centre du monde, notre lac. Le soir tombait, nous nous assîmes sur la rive après 8 heures de marche. Le silence bourdonnait. Les Kunlun, déjà sombres, montaient une garde amicale. Le plateau était vide, pas de bruit, nul mouvement, aucun parfum. C'était le grand sommeil. Le Tao reposait, lac sans rides. De sa placidité naissait l'enseignement. Devant l'agitation fourmillante des êtres, ne contemplent que leur retour. Les êtres divers du monde feront retour à leurs racines. Faire retour à la racine, c'est s'installer dans la quiétude. J'aimais cet hermétisme narcotique. Le Tao, comme la fumée du Havane, dessine des énigmes douces. On n'est pas sommé de comprendre grand-chose, mais l'engourdissement est aussi voluptueux que la lecture de Saint-Augustin. Le monothéisme n'aurait pas pu naître au Tibet. La proposition du Dieu unique avait été forgée dans le croissant fertile. Des peuples d'éleveurs et d'agriculteurs s'organisaient en masse. Sur le bord des fleuves, les villes apparaissaient. On ne pouvait plus se contenter d'égorger des taureaux pour la déesse mère. Il fallait régir la vie collective, célébrer les moissons et ranger les moutons. On forgea une représentation du monde où furent glorifiés les troupeaux. On inventa une pensée universelle. Le Tao, lui, restait une doctrine pour solitaires errant sur le plateau, une foi de loup. À présent, la déesse. Munier voulait gagner Zadoï à l'extrême-est du Tibet, dans la haute vallée du Mékong. De là, nous rejoindrions les massifs où se terraient des panthères survivants. Survivantes à quoi, dis-je? À la propagation de l'homme, dit Marie. Définition de l'homme, créature la plus prospère de l'histoire du vivant. En tant qu'espèce, rien ne le menace. Il défriche, bâtit, se répand. Après s'être étendu, il s'entasse. Ses villes montent vers le ciel. Habiter le monde en poète, avait écrit un poète allemand au XIXe siècle, Hölderlin. C'était un beau projet, un vœu naïf. Il ne s'était pas réalisé. Dans ses tours, l'homme du XXIe siècle habite le monde en copropriétaire. Il a remporté la partie, songe à son avenir, lorgne sur la prochaine planète pour absorber le trop-plein. Bientôt, les espaces infinis deviendront sa vidange. Il y avait quelques millénaires, le dieu de la Genèse, dont les propos avaient été recueillis avant qu'il ne devînt muet, s'était montré précis. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. On pouvait raisonnablement penser, sans offenser le genre clérical, que le programme était accompli, la terre assujettie, et qu'il était temps de donner repos à la matrice utérine. Nous étions 8 milliards d'hommes, il restait quelques milliers de panthères. L'humanité ne jouait plus une partie équitable. Demain, pour un 8e extrait, de la Panthère des neiges.